I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
La bulle immobilière.
C'est pas pour les doux. 96.9.
3, 2, 1.
Ready for takeoff.
Let's go!
La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions et des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Pour le meilleur show en immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu détaillé, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
969 FM.
À l'écoute de La Sauce, bienvenue à notre 10e saison de La Bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier, toujours avec mon acolyte Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires chez
Vigie Service juridique. Salut Jeff, comment ça va?
Ça va super bien. Écoute, ce matin, tu avais une conférence avec le réseau immobilier. T'es une fille qui est ultra nichée dans ta spécialité du droit des affaires. C'était quoi le sujet qu'on parlait ce matin?
Bien planifier la vente de son entreprise. En fait, les pièges à éviter dans le cadre de l'achat-vente. On était 55 participants. Hein? C'était vraiment dynamique. Les gens ont beaucoup aimé, ont participé. Donc, un déjeuner à l'aquarium, donc près des ponts.
Exact, toujours avec le réseau immobilier. Puis, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on est mieux de l'acheter par actif, est-ce qu'on est mieux de l'acheter par action, c'est quoi les erreurs à pas faire, c'est quoi les vérifications diligentes. Puis, tu sais, Sylvie, tu es spécialisée en droit des affaires. Aujourd'hui, on reçoit un avocat aussi, Maître Michel Léonard. Bonjour, bienvenue avec nous.
Bonjour, grand plaisir d'être ici.
Merci beaucoup. Merci d'avoir fait la route aussi de Montréal jusqu'à ici. Puis, Sylvie, tu en as parlé hors d'onde, comme de quoi que oui, effectivement, que tu viens accompagner beaucoup d'entrepreneurs, justement, dans l'achat d'entreprises, etc. Mais est-ce que tu as des grandes connaissances aussi sur des fonds à la bourse?
Non, c'est ça. C'est pour ça que aujourd'hui, moi, je suis très excitée parce qu'on parle avec, c'est ça, Maître Léonard, qui est du fonds immobilier BTP. Et c'est un fonds qui est à la bourse. Donc, c'est quand même plus rare. C'est moins connu pour les communs des mortels, en fait, et les PME québécoises typiques à capital fermé qu'on appelle. Donc, ça va être vraiment intéressant parce que, Maître Léonard, vous avez vraiment participé à la mise en place en... à l'appel public, finalement, de cette entreprise-là, dans le fond, la mise sous le marché.
Depuis la première journée.
Ouais. C'est très, vraiment intéressant. Mais on va commencer d'abord à mieux vous connaître. Donc, votre parcours, dans le fond, on comprend que vous êtes avocat, mais c'est quoi un peu vos études? Vous avez fait des études en commerce aussi, je crois.
Oui, j'ai fait un bac en commerce à l'Université McGill. Par la suite, j'ai fait un bac en droit à l'Université McGill aussi. Fait l'école du barreau. Obtenu mon diplôme dans les deux cas, plus le droit de pratiquer. Et j'ai œuvré au sein d'un bureau d'avocats à Montréal, qui était un petit bureau d'avocats et qui était spécialisé en droit des affaires,
okay,
avec une plus haute spécialité en taxation. Alors, moi, j'avais fait, au cours de mes études, j'avais fait j'avais approfondi le sujet de la fiscalité. Puis, évidemment, c'était pour cette raison qu'ils ont choisi de m'engager initialement. Mais plus j'avançais dans le domaine de la fiscalité, moi, j'aimais ça. Mm. Alors, j'essayais de me trouver autre chose. Puis c'est comme ça que je suis arrivé en immobilier. Je suis devenu, au sein d'une firme de courtage immobilier commercial, je suis devenu le chef avocat du contentieux, avocat principal du contentieux. Et c'est comme ça que mon introduction s'est faite au milieu immobilier, parce qu'avant ce moment-là, je connaissais absolument rien du milieu immobilier.
OK. Puis est-ce que vous aviez une envie de vous lancer en affaires en ayant fait des études en commerce? C'était-tu à la base un peu le plan de match? Ou...
J'avais été quand j'étais plus jeune, j'avais été conseillé que ce serait très approprié d'avoir les deux volets pour être en affaires, c'est d'avoir le côté légal puis d'avoir le côté professionnel au niveau, que ce soit administration, marketing ou finance, etc. Et c'est pour ça que j'étais entré à l'Université McGill en commerce. Pour par la suite, le conseil était d'aller chercher également le diplôme en droit pour justement avoir les deux facettes, pour combiner les deux facettes qui seraient très attirants ou attractifs pour le milieu des affaires.
Oui.
Évidemment, au moment où j'ai gradué, on était dans les années 80, puis il y avait aujourd'hui, on est en pénurie d'emploi, puis dans ce temps-là, il y avait trop d'avocats qui sortaient de la faculté de droit, il y avait trop de gens qui sortaient de la faculté de commerce. Alors, c'était très difficile de se trouver un emploi. Et j'avais été chanceux, comme je mentionnais, trouver un emploi au niveau d'un bureau d'avocat. Mais plus j'œuvrais au sein du milieu légal, évidemment, moins j'aimais ça. Je trouvais pas que ça répondait à mes besoins. Et donc, je cherchais à avoir plus de challenge dans la vie.
Quand même le fun, là. Tu sais, puis c'est vraiment un parcours, tu sais, d'entrepreneur où, tu sais, on vient essayer quelque chose, puis on fait comment écrire. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'aller prendre ces connaissances-là. Puis au fil du temps, bien, on ramène nos connaissances sur... On veut avoir plus, on veut aller à un autre niveau. Puis, tu sais, je pense qu'on est curieux. Les entrepreneurs de base, c'est des gens qui sont curieux, qui veulent apprendre, qui veulent avancer leurs différentes entreprises. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est pas juste vos seules implications non plus, parce que vous siégez aussi à l'OACQ.
Oui, je suis vice-président du conseil de l'OACQ. Je suis en élection pour renouveler mon mandat. Alors, je ne sais pas si par le temps qu'on va...
Vous avez 12 participants qui vont voter en votre faveur ici.
Merci beaucoup. Alors, évidemment, il y a des élections très bientôt. Et j'ai déjà été président du conseil de l'OACIQ, par ailleurs. Et la raison que je suis vice-président du conseil aujourd'hui, c'est que lors du changement de la dernière vocation de la loi, la dernière itération de la loi, le ministre des Finances avait décidé qu'un courtier immobilier ne pouvait pas être président du conseil de l'OACIQ. Alors, donc, c'était une personne nommée par le ministre qui siège, donc un nouvel administrateur au sein du conseil de l'OACIQ, qui devait agir à titre de président du conseil. Et donc, mais au niveau de la vice-présidence du conseil, il faut que ce soit un courtier. Alors, j'ai été élu parmi les administrateurs comme vice-président du conseil il y a 2 ans. Et donc, là, je suis en réélection pour un autre terme de 2 ans au sein de l'OACIQ.
Je viens de rajouter 75 personnes pour voter pour vous. Fait que ça, c'est quand même très bien.
C'est excellent.
Puis l'autre chose...
Sauf que je dois vous préciser que ça se fait juste au niveau du conseil, parce que je suis déjà membre du conseil d'administration. C'est alors, c'est déjà fait pour les 3 prochaines années. Alors, j'ai été réélu.
Ça,
puis...
c'est les administrateurs qui votent sur les postes de dirigeants.
C'est ça. Alors, donc...
Merci de me ramener à l'ordre.
Je sais pas s'il va y avoir une cabale au sein du conseil, là, mais en tout cas, c'est de cette façon-là. Puis
pourquoi l'OACQ? Pourquoi vous êtes impliqué auprès de la profession du courtage immobilier?
J'ai commencé mon implication au sein de l'OACQ, au sein du FARSIC. J'ai été, à l'époque, le FARSIC était une entité quasi indépendante, si on peut l'appeler comme ça. Donc, elle avait une certaine autonomie. Mais lors de la dernière loi, ou le dernier amendement à la loi, le FARSIC est devenu une espèce de comité du conseil de l'OACIQ. Alors, c'est la façon dont c'est géré. Mais à l'époque, c'était je ne veux pas dire... complètement indépendant, parce que c'est pas vrai, mais il y avait son propre conseil d'administration, puis j'étais le président du conseil. C'est comme ça que j'ai joint les rangs de l'OACIQ. Alors, à titre de prix, j'avais été nommé président du conseil, administrateur du fonds d'assurance et par la suite président du conseil. Et suite aux travaux qui ont été faits, bien évidemment, on m'a recruté pour siéger au conseil de l'OACIQ et éventuellement devenir président du conseil.
C'est quand que c'est arrivé ensuite dans votre vie, le fameux fonds de placement dont on va parler un peu plus aujourd'hui? C'est
arrivé, pour faire une histoire très rapide, mais quand même cocasse. Là.
Oui.
Tous les soirs, je marchais mon chien. Je sortais de la maison vers 7h, 7h30 le soir. Puis ça, c'était dans les années 2001 à peu près. Et mon voisin d'en face, elle me parlait du fait que fiscalement, juste pour venir à l'étape fiscale, mais fiscalement, que c'était avantageux de convertir son entreprise en, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais il appelait ça à l'époque des « income trust ». Alors donc, c'était, tu avais des entreprises qui étaient viables, etc., se transformaient en fiducie d'investissement, peut-être le bon mot, je ne suis pas sûr. Et finalement, ben, les fiducies d'investissement, ce n'était pas taxable. Ça payait au lieu de payer des dividendes, ça payait des distributions. Puis, ben, évidemment, tu es capable de lever de l'argent au public. Et lui, il avait une entreprise qui était associée à Bombardier, donc il fabriquait des espèces de pièces, je ne sais pas trop quoi, là, pour Bombardier, et avait transformé son entreprise en Income Trust. Donc, avait reçu tout les avantages fiscaux, puis en même temps, ben, son entreprise qui était privée était devenue publique. Alors, les avantages également d'une entreprise publique. Puis, alors, on marchait le chien, puis était, évidemment, lui avait son chien, j'avais mon chien. Puis, très, très, très heureux du fait qu'il avait transformé sa business, que l'argent, les investisseurs avaient endossé sa business, etc. Puis, il me disait tout simplement, ben toi, pourquoi tu fais pas ça en immobilier? Tu connais ça, l'immobilier? Tu devrais faire ça. Alors, c'est vraiment ce qui m'a mis la puce à l'oreille.
Mm-hmm.
Alors, à l'époque, si on se rapporte là, tôt 2000, dans les années 2000, juste pour avoir un exemple local, Cominor s'était transformé en fonds de placement immobilier en 1998. Alors donc,
c'était d'actualité, là.
C'était très d'actualité, c'était très nouveau. Cominor était le premier au Québec à faire une transformation comme celle-là. Et bon an, mal an, puis Cominor, à l'époque, là, on ne parle pas d'une entreprise qui avait des milliards de chiffre d'affaires. Là. C'était beaucoup plus petit. Et donc, ben, je me suis mis à regarder, étudier, jaser, parler à plusieurs personnes à travers des années, certaines années. Puis c'est en 2006 que tout s'est concrétisé, où on a débuté les activités du fonds de placement immobilier BTB.
Puis tu sais, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que la réflexion arrive en 2001. 5 ans plus tard, le fonds arrive. Il y a une période de questionnement, il y a une période d'aller chercher justement l'information pour s'assurer de quelle façon qu'on le fait, c'est quoi vraiment les vrais bénéfices, etc. Mais tout le processus ne doit pas être comme pour créer une société par action avec un avocat, où on est capable de créer ça quand même assez rapidement. Un fonds d'investissement demande beaucoup plus d'obligations. Puis on va en parler du processus tantôt, là, mais c'est pas un processus qui est simple.
C'est vraiment pas... Non, c'est très, très, très difficile. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y en a si peu. Pendant des périodes fructueuses de l'immobilier, il y aurait pu en avoir beaucoup plus, mais il y en a eu peu. Alors, évidemment, la première chose, c'est que ça s'appelle une société de capital de démarrage en vertu de la bourse. Donc, c'est une compagnie qui est créée. Et la compagnie est créée, elle doit avoir des actionnaires. Puis, elle peut pas avoir, je pense qu'elle doit avoir 50 actionnaires, quelque chose comme ça. Là, puis, tenez-moi pas, regarde du chiffre, là, je m'en rappelle plus. Alors, un certain minimum d'actionnaires qui investissent. Puis on peut, je pense, à l'époque, là, on ne pouvait pas ramasser plus que 400 000 $ pour partir l'entreprise. Hein, parce que là, c'était plus une société de capital de démarrage s'il y avait plus de 400 000 $ d'investis. Alors, une fois que le capital était levé, donc 400 000, ce n'est pas des millions, là, 400 000, on peut quand même rencontrer des gens puis lever le fameux 400 000 $ Là, la structure, c'est une structure corporative qui doit se transformer, puis tu vas apprécier ça, c'est qui va se transformer en fiducie. Alors, légalement, ça n'existe pas. Il n'y a aucune loi qui permet de transformer une corporation ou une société en fiducie. Alors, il faut que tu ailles chercher un jugement de la Cour.
Okay.
Alors, la Cour, devant, puis je pense que ce n'est pas quelque chose qui se fait à tous les jours. Donc, il y a un petit processus éducationnel à faire aussi là-dedans. Là, mais alors, la Cour émet un jugement qui transforme la société de capital d'un démarrage en une fiducie. Alors ça, c'était vraiment le premier balbutiement de BTB. C'est quand elle a reçu le jugement lui permettant de se convertir en fiducie.
Oui. Bien, pour les gens aussi à la maison qui nous écoutent, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'une compagnie, c'est une personne morale distincte. Une fiducie au niveau fiscal, c'est considéré comme une personne physique. Dans le fond, on comprend qu'une personne morale est née, bébé, humaine, physique, personne physique au sens fiscal. C'est quand même intéressant. D'où la rareté peut-être aussi, parce qu'on vient carrément de changer la forme juridique là, de l'entité.
Puis dans le cas où ce qu'on vient transformer justement en fiducie, est-ce qu'elle a une pérennité dans le temps aussi? Comme les fiducies qu'on va faire, par exemple, des fiducies familiales, etc. Non?
Il n'y a pas de limite dans le temps pour la fiducie. Mais ce qui est intéressant, Stéphanie, ce que tu dis, c'est exactement
Sylvie.
Ça. Sylvie, excusez. Je ne sais pas pourquoi j'avais entendu Stéphanie. Sylvie, le point le plus important là-dedans, c'est que la fiducie est taxée comme un individu.
C'est ça.
Elle a certains... comment je pourrais dire ça? Fiscalement, elle a certains bénéfices parce qu'elle distribue aux porteurs de part ses gains. Et donc, les porteurs de part, eux, puis on parle de, si tu veux parler de la taxation, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais les porteurs de part, eux, ne sont pas taxés sur la réception des dividendes ou des distributions de la fiducie. Alors ça, c'est ce qui est très intéressant fiscalement pour créer une fiducie, opérer par la voie d'une fiducie, mais en même temps, on a tous les attributs qui ne sont pas relié aux corporations. Alors, corporation, c'est une personne morale. Elle a ses obligations, elle a ses droits, puis il n'y a pas de recours contre les actionnaires. Cependant, quand tu es une fiducie, ben, tu peux avoir des recours contre tes actionnaires parce que toutes les actions de la fiducie, elles passent par les fiduciaires aux détenteurs de part. Alors, il faut trouver des moyens légaux, évidemment, pour limiter justement ces recours. Et légalement, bien évidemment, de la façon dont nous sommes créés et on opère, bien, on limite les recours envers les fiduciaires puis envers les porteurs de part.
Oui. Puis comment ça arrive, là? Fait qu'on, comme on dit, en 2001, on a l'idée, on prenait une marche avec son chien. Mais c'est qui qu'on va chercher comme investisseur en premier? Est-ce que c'était dans votre réseau de contacts proche? Comment vous êtes allé chercher vos premiers investisseurs?
Réseau de contacts proche, à l'époque, je siégeais dans un organisme à but non lucratif qui s'appelait le Technoparc Saint-Laurent. Puis le Technoparc Saint-Laurent, c'est à Montréal, probablement à l'épicentre de l'île de Montréal, où c'est un développement de parcs technologiques, pareil comme le Parc technologique de Québec, dans le fond, là. Sauf que c'est une société sans but lucratif. Et initialement, quand ça avait été créé, bien, c'était des scientifiques qui avaient décidé de créer une société pour construire des immeubles pour faire en sorte que les universités aient des laboratoires, puissent accueillir des scientifiques mondiaux, etc. Alors ça, c'était leur but. Mais malheureusement, tu as besoin d'un petit peu du volet immobilier quand tu veux parler de création d'immeubles, construction d'immeubles, les routes, l'urbanisme, la réglementation municipale, etc. Alors, ces gens-là avaient décidé de recruter des gens du milieu immobilier pour les aider au niveau du conseil à mettre tout ça en place, et j'en étais un. Et donc, il y avait des gens que je côtoyais, et c'est les premières personnes, évidemment, que j'ai approchées.
Est-ce que tu trouves ça intéressant?
Ben oui.
C'est l'introduction, puis écoute, j'ai aucun mot, je ne fais qu'écouter pour apprendre. Je vous remercie, M. Léonard, de participer à notre entrevue. Nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web, jeanfrançoismorin.ca, sur vigiquebec.com, sur le site de la Bulle immobilière, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Balados!
La Bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com.
Yes. Lui, il va l'acheter ton bloc. airfortin.com. Yes!
La radio de Lévis.
Écoutez, directement sur Président Kennedy.
CJMD 96.9 Lévis.
Demandez à l'assistant Google ou Alexa.
La Bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière. Je suis avec Jean-François Morin, de l'équipe Jean-François Morin, chez Nous vendons votre maison, le meilleur courtier immobilier en ville.
Ah oui, écoute, autant pour le résidentiel, le commercial, l'industriel, le multilogement, on est sous la coche.
Ça accroche, dynamique aussi, tu vulgarises, tu accompagnes bien tes clients, c'est super intéressant. Puis tu fais toujours plein de vidéos hyper intéressantes en ligne en plus. Fait qu'on est sûr, tu veux vendre, tu veux acheter, c'est clair, suivez-le sur les réseaux sociaux.
Puis écoute, c'est des succès monstres que ça donne à notre équipe. On a du rendement incroyable avec ça. Puis sais-tu quoi? Cette semaine, on a parlé avec un client où ce que tu sais, il a fait une demande d'information sur les différentes publicités qu'on va faire, qu'on fait. Puis quand on a appelé la personne, il dit écoute, il dit c'est moi qui voulais t'appeler. Il dit je voulais pas que toi tu m'appelles. Il dit c'est moi qui voulais t'appeler parce que ça fait 2 ans que je te suis avec la bulle immobilière. Fait que tu sais, je trouve ça quand même fou. On a des gens qui nous écoutent depuis plusieurs années. Puis encore ce matin, on parlait de la bulle immobilière. Puis tu sais, il y avait quand même la moitié de la salle environ qui connaissait la bulle immobilière. Puis on vient de faire connaître la bulle immobilière à l'autre moitié de salle. Fait que c'est quand même super intéressant.
Exact. Puis aujourd'hui, hyper intéressant, on est avec Maître Michel Léonard du fonds d'investissement BTB. Super intéressant, on a mis la table au début un peu sur votre parcours. Vous êtes qui? On veut savoir actuellement, là, en 2023, vous en êtes rendu où au niveau des investissements de votre actif immobilier dans le fonds?
Bien, la valeur totale des actifs de BTB actuellement, c'est 1,2 milliard. Alors, puis comme je le mentionnais tantôt, on est parti d'une page blanche, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun actif dans le fonds. On est rendu 15 ans plus tard à 1,2 milliard et notre but, c'est dans 3 ans de se rendre à 2 milliards d'actifs.
C'est énorme. On s'entend que c'est énorme. Il y a combien de personnes dans l'équipe derrière ça pour... on va en parler aussi du processus de sélection des immeubles, mais je veux dire, ça se fait pas seul. Là. Vous êtes combien?
On a 80 employés aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus, 82 ou quelque chose comme ça. Alors, ne m'a pas rigueur, mais je sais que c'est plus que 80. Et on opère dans 3 grands marchés et 2 plus petits marchés. Alors, les 3 grands marchés où nous détenons des immeubles, c'est Québec, Montréal, Ottawa. Et nous avons aussi des immeubles à Saskatoon et Edmonton. La façon dont notre portefeuille se déploie, c'est qu'on a des immeubles de bureaux. Par exemple, ici à Québec, à Le Bourgneuf, on détient plusieurs immeubles de bureaux pour 1,4 million de pieds carrés, quelque chose comme ça. Et on a également à Québec des immeubles industriels à Saint-Augustin. Et on a 2 immeubles de commerce de détail à Lévis, et qui est le Mégacentre Rive-Sud et le Carrefour Saint-Romuald. Et évidemment, à Montréal, on a des immeubles industriels et des immeubles de bureaux et des immeubles de commerce de détail. Saskatoon et Edmonton, seulement des immeubles industriels.
Quand même, fait qu'on a un portefeuille très diversifié partout au Canada. Justement, quand on fait un processus de levée de fonds puis de mettre en place là un fonds public, est-ce qu'on doit aussi avoir... est-ce que c'est une obligation que ça soit une entreprise canadienne ou on pourrait garder privé Québec?
Ça peut être exclusivement Québec. Il n'y a pas de restriction territoriale.
OK, parfait. Mais tu sais, dans la Constitution, on n'est pas obligé d'avoir une Constitution canadienne versus une Constitution...
Non, au contraire, c'est une Constitution québécoise. Parce que vu que c'est un acte de fiducie qui nous crée, puis si vous allez sur notre site web, l'acte de fiducie est là, puis tous les amendements. Et l'acte de fiducie comme tel, c'est ce qui nous gouverne. Alors, on peut pas amender l'acte de fiducie. Je ne peux pas amender l'acte de fiducie moi-même. Je dois avoir l'assentiment des porteurs de part pour faire des amendements à l'acte de fiducie. Alors, par exemple, si l'acte de fiducie disait nos activités sont restreintes à la province de Québec, bien, ça serait seulement la province de Québec. Mmh. Je devrais avoir l'assentiment des porteurs de part pour aller investir, par exemple, à Ottawa, aller investir ailleurs au Canada. On a le droit d'investir, par exemple, aussi aux États-Unis. Cependant, vu qu'on a un certain statut, puis je parlais tantôt du statut fiscal, on ne peut pas avoir plus que 49 % de nos investisseurs qui sont américains. Puis la minute qu'on dépasserait le 49 %, bien, ça fait en sorte que ça invaliderait toute la portion fiscale avantageuse pour nos porteurs de part de la fiducie. Mm-hmm. Alors, donc, c'est pour ça qu'à chaque année, on se doit d'évaluer, de savoir qui sont nos porteurs de part pour s'assurer justement qu'on ne dépasse pas le 49 %. On n'a pas d'inquiétude de ce côté-là. On en a des investisseurs américains, mais c'est peu. Alors, ça représente peut-être 10 %.
Quand vous avez procédé à la création, c'était quoi le plan de match du fonds? C'était ça la vision d'avoir comme un parc vraiment avec 1,2 milliard d'actifs? Est-ce que vous pensez garder ça petit? Est-ce que votre intention, au contraire, c'est d'avoir 100 milliards d'actifs? C'était quoi un peu la vision?
Au tout début, c'est ça qui est quand même loquace. Au tout début, On parlait, parce que quand tu pars ça, là, quand tu pars la machine, là, il faut que tu fasses du marketing. Alors, il faut que tu ailles rencontrer des courtiers en valeur, des courtiers en valeur mobilière, etc. Mm-hmm. Puis là, initialement, il y a un syndicat bancaire qui entoure ça aussi, puis je peux parler de qu'est-ce que c'est le syndicat bancaire, mais je veux juste terminer. Le syndicat bancaire disait, bien, combien d'immeubles tu penses que tu es capable d'acheter, puis quelle serait la taille du fonds dans 5 ans, etc. Alors, à l'époque, moi, je me disais, oh, acheter 50 millions, 100 millions, ça va être beaucoup. Mm-hmm. Puis là, les investisseurs, les courtiers en valeur mobilière me disaient, non, t'es mieux de pas parler comme ça au public parce qu'ils investiront pas chez toi. Il faut que tu dises que tu veux avoir 500 millions d'actifs. Et pour moi, sincèrement, 500 millions d'actifs, là, c'était comme, wow, c'était gros. Puis je me demandais comment en 5 ans, je serais capable de me rendre à 500 millions d'actifs. Puis je voyais pas comment j'allais le faire. Mm-hmm. Je l'ai dit dans le cadre de marketing, quand il me demandait c'est quoi ton plan d'affaires, où tu veux te rendre. Alors oui, j'ai monté un plan d'affaires pour être à 500 millions en 5 ans plus tard. Et je l'ai réalisé, effectivement réalisé. Mais à l'époque, j'y croyais pas. Mm-hmm. Alors c'était juste, je trouvais que le chiffre était tellement gros. Alors aujourd'hui, quand je parle de 1,2 milliard, ben pour moi, c'est plus gros. Alors, c'est vraiment... la dimension a complètement changé par rapport à la réalité ou ma réalité ou mes pensées. Alors, ça fait en sorte qu'effectivement, je comprends que quand tu pars, quelque chose a été listé à la bourse, bien, il faut que ça soit plus gros que si tu le fais seul. Mm-hmm. Mais en même temps, j'avais de la difficulté à croire à 500 millions d'actifs au bout de 5 ans.
Puis tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime de ça aussi, c'est de se fixer des objectifs quasi inatteignables. Ça fait en sorte qu'on met les énergies nécessaires pour atteindre ces objectifs-là quand même. Fait que, tu sais, par la suite, les résultats, même s'ils sont peut-être pas atteints, bien, on est 300-400% plus haut que qu'est-ce qu'on serait fixé à la base. Fait que ça, c'est quand même impressionnant. Puis, tu sais, quelques années plus tard que le premier 5 ans, tu sais, le volume est même quasiment triplé, puis on vise à le quadrupler. Fait que c'est quand même fou, là. Fait que sur le premier 20 ans, on va avoir quadruplé les objectifs du premier plan quinquennal, là, c'est quand même impressionnant. Vous disiez là que vous aviez justement fait la création. Vous êtes constitué à la Bourse de Toronto, c'est ça?
Oui.
Puis j'aimerais ça que vous expliquiez un peu comment ça procède à titre d'investisseur pour participer à même le fonds. Puis est-ce que monsieur, madame, tout le monde peuvent participer, peuvent acheter des actions, peuvent faire ça à la maison, etc. J'aimerais ça que vous puissiez juste nous donner un guideline sur le fonctionnement pour monsieur, madame, tout le monde.
Parfait. La première chose, c'est que évidemment, ça prend un compte auprès d'une maison de courtage en valeur mobilière, que ce soit un compte à escompte, que ce soit un compte direct, que ce soit un courtier en valeur mobilière qui s'en occupe, ça prend un compte en courtage en valeur mobilière. Tu peux le faire dire, tu peux acheter demain matin, tu peux ouvrir ton ordinateur, puis si tu es en courtage à escompte, ben, tu peux carrément acheter des parts de BTB immédiatement.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Puis ça se fait si facilement que ça. Alors, c'est vrai, c'est pas quelque chose de difficile. Mais ce qui est intéressant pour un investisseur, c'est le côté fiscal de la chose. Parce que un investisseur qui reçoit des dividendes, il est taxé sur les dividendes qu'il reçoit. Un investisseur qui reçoit des revenus d'intérêt, il est taxé sur les revenus d'intérêt. Un investisseur qui reçoit des dividendes, ça s'appelle des distributions quand on est dans le cadre d'une fiducie, donc des distributions, de BTB, il n'est pas taxé sur ses distributions. Ce que ça fait, c'est que s'il achète la part de BTB à 4 $ et il reçoit des distributions mensuelles qui sont équivalentes à peu près à l'heure actuelle d'un rendement de 8 %. Alors, donc le 8 % non taxable, mais le 8 % que tu reçois diminue la valeur au livre de ta part. Et quand tu décides de vendre ta part, tu réalises un gain de capital. Alors, en réalisant un gain de capital, ben, tu es juste taxé à 50 %. Alors, c'est fiscalement très avantageux d'investir dans des fiducies de placement immobilier, au même titre que les gens à l'époque investissaient, quand Cominard était public, investissaient dans Cominard, puis c'était le même genre de traitement fiscal. Alors, c'est le grand intérêt. Et évidemment, les gens qui, on va penser à des gens qui sont à la retraite et qui ont besoin d'un rendement, peut-être aujourd'hui, ils sont capables d'avoir à la banque 2 % à 3 %. Évidemment, revenu d'intérêt taxable. Alors que s'ils font des placements, puis je ne vous dis pas de mettre tout votre argent dans BTB, c'est pas ça que je dis, mais si tu fais un placement dans BTB, bien évidemment, tu reçois 8 % de retour de façon... et la taxation est différée sur le 8 % jusqu'à temps qu'il y ait une décision de vendre les parts de BTB.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis ce qui est le fun aussi, je trouve, c'est que ça permet justement de... minimiser un peu le risque, hein, parce qu'on le sait, des fois, on a le goût d'investir dans l'immobilier. C'est populaire d'investir dans l'immobilier, mais tu as l'impression, des fois, de mettre toutes tes billes dans le même immeuble, dans un ou deux immeubles qui vont pas super bien, qu'on n'a pas nécessairement le temps de s'en occuper. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, il y a 80 personnes qui s'occupent du fonds. C'est de l'immobilier diversifié, tu sais, aussi beaucoup. Fait que ça vient quand même minimiser, je pense, les risques.
T'sais, des fois, on peut avoir un rendement, tu sais, un retour sur notre investissement de 20-22 % si jamais on fait nos projets nous-mêmes, les optimisations, etc. Mais tu sais, si on peut avoir un 8 % passif, des fois, ça peut devenir vraiment intéressant aussi, là, parce que tu sais, c'est un risque qui est mieux contrôlé. L'optimisation, on est 100 % au bat sur nos projets. Puis tu sais, en même temps, à place de dire, ben écoute, moi, je suis propriétaire d'un triplex, mais là, vous pouvez être propriétaire d'1,2 milliard d'actifs dans une société.
C'est
là.
Ce qui est le fun, c'est que vous n'êtes pas sur le marché dispensé. Il ne faut pas être un investisseur qualifié pour investir. Alors, n'importe qui qui nous écoute peut investir.
Absolument. Il n'y a pas de limite de ce côté-là.
C'est le fun, c'est ça aussi.
Évidemment, au tout début de BTB, évidemment, les premiers qui investissaient dans la société de capital de démarrage devaient être des investisseurs qualifiés. Parce que là, à ce moment-là, on ne pouvait pas recruter n'importe qui. Mais depuis qu'on est listé à la Bourse de Toronto, il n'y a aucune restriction de ce côté-là. Puis on était initialement listé sur le Venture Exchange, alors qu'aujourd'hui, on est sur la grande bourse là, pour le vrai TSX.
Puis quelle est la différence entre les deux, justement?
Les critères légaux de reporting ne sont pas les mêmes. Alors, c'est beaucoup plus strict au niveau des critères légaux quand tu te rapportes à la Bourse de Toronto, le TSX, que quand tu te rapportes au Venture. Les délais pour produire les états financiers sont beaucoup plus longs sur le venture qu'ils le sont à la Bourse de Toronto. Alors donc, il faut que tu sois, pour être capable de migrer de un à l'autre, premièrement, il y a des qualifications financières à remplir, mais en plus de ça, il faut que tu comprennes que dans un certain délai, après une fiducie, sa fiscalité, son année fiscale, c'est du 1er janvier au 31 décembre, puis ça, tu changes pas ça, tu peux pas changer ça, c'est fixe, c'est la loi. Et donc, on se doit de rapporter, par exemple, on a rapporté nos résultats du 31 décembre 2022, le 28 février 2023. Alors, c'est une période de 60 jours, c'est un peu plus long, là. Nous, on est habiles, puis on fait bien les choses, puis les gens qui travaillent chez nous sont vraiment très professionnels de ce côté-là. On a raccourci tous les délais de reporting, justement, pour le faire le plus rapidement possible.
Puis, tu sais, en même temps, ça vous permet aussi d'avoir un contre-délai de vérification. Puis, tu sais, si jamais il y a quoi que ce soit, mais tu sais, vous n'êtes pas serré dans le temps où est-ce que ça a été déposé, dernière minute, dernière seconde.
Ça, c'est la pire affaire. Puis surtout, la documentation qu'on produit, il faut qu'elle soit parfaite. On n'a pas le droit à l'erreur. Alors, donc, évidemment, c'est plusieurs révisions, que ce soit les révisions par nos comptables, par nos avocats, par nous-mêmes, la préparation, toute la documentation. Parce que, évidemment, on ne pourrait pas produire quelque chose qui pourrait faire en sorte que quelqu'un se sentirait lésé par la documentation qui a été préparée.
Puis au-delà des constats annuels, puis le bilan annuel, vous avez aussi des reports à faire régulièrement, là, tu sais, parce que les actionnaires veulent suivre la performance de la compagnie. Puis ça, c'est quoi les engagements que vous avez avec ça?
On se rapporte 4 fois par année, donc à la fin de chaque quart. Donc, un quart, il y a le prochain quart qui se termine, c'est au 31 mars. Alors, au 31 mars, au début mai, on va se rapporter au marché, et ainsi de suite. Et on a une assemblée annuelle, on est obligé de tenir une assemblée annuelle, qui est soit maintenant, avant, on n'avait pas le droit de faire des assemblées virtuelles, mais là, la bourse a changé les règles, on a le droit de faire des assemblées virtuelles, on a le droit de faire des assemblées en personne également. Nous, cette année, on va essayer de faire une assemblée virtuelle et en personne en même temps. Et le but de ça, c'est que on s'est rendu compte qu'on a des investisseurs non seulement dans la province de Québec, mais on a des investisseurs en Ontario, grands investisseurs, par exemple, à Calgary, à Vancouver, et pour eux, d'assister à l'Assemblée annuelle, poser leurs questions, ben, ils sont pas vraiment capables. Ils sont obligés de prendre l'avion, venir nous voir, etc. On aimerait bien ça, mais c'est pas ça qui se passe. Alors, il y a un certain manque d'informations. Alors, cette année, on va essayer d'innover pour justement voir s'ils ont intérêt à participer virtuellement à notre Assemblée annuelle.
Fait que là, comment ça fonctionne? Là, on a comme parlé de plusieurs sujets, mais mettons la mise en place, justement, les grandes étapes, ça ressemble à quoi pour se rendre à la bourse aujourd'hui?
Bien, dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est société de capital de démarrage. Ensuite, on a été listé sur le Venture Exchange et ensuite sur la grande bourse, donc le TSX.
Et pour être listé là, sur le Venture Exchange, j'imagine que ça demande plein d'informations. C'est-tu bien compliqué de remplir des demandes? Comment ça fonctionne?
La première chose qu'il fallait faire au niveau de la société de capital de démarrage, il fallait acquérir un immeuble. Okay. Alors ça, c'était donc le fameux 400 000 $ qui a été amassé. Il fallait qu'il soit investi. On a acheté notre immeuble. Une fois l'immeuble acheté, c'est là que la transformation s'est faite en fiducie et là où on a été listé sur la bourse. Alors donc, à ce moment-là, on avait satisfait les critères initiaux d'avoir nos 50, ou j'oublie le chiffre, investisseurs. Et là, quand on a été listé à la bourse, on a levé, initialement, je pense que c'était 35 millions de $. On avait un seul actif.
Oh,
on a été capable de lever 35 millions
à cause du marketing. C'est là que rentre en ligne le marketing.
Exactement. À cause du marketing. Donc, on avait réussi à intéresser des courtiers en valeur mobilière pour qu'ils puissent placer, donc lever l'argent, mais de l'autre côté, eux, il faut qu'ils le placent dans leur compte. Alors donc, il y avait des investisseurs qui sont devenus investisseurs dans BTB initialement. Et le 35 millions a été rapidement déployé pour acheter des immeubles. Mm-hmm. Alors, à l'époque, on avait acheté seulement Montréal. Et c'est en 2010 qu'on a fait notre première acquisition à Québec. Et encore une fois, c'était dans le secteur de Le Bourgneuf. C'était le 6655 Pierre-Bertrand. Le premier immeuble, on l'a toujours. Oh. Le premier immeuble que nous avons acheté, c'est... je ne sais pas si c'est connu dans le marché ici, mais c'est Germain Larivière. Germain Larivière, c'est un vendeur de meubles, d'électroménagers, de décorations, etc. Un peu comme Tanguay, si vous voulez, et qui est localisé à Laval, à Saint-Hyacinthe et au quartier 10-30 à Brossard, à Montréal.
Ouais. Mais là, Jeff, pense à ça. Là. On a un immeuble, 400 000 $ des investisseurs, on arrive à la bourse, on se retrouve avec 35 millions à investir. Ça doit être assez flyé comme...
C'est quand même vraiment cool. Puis une des choses que moi, je veux savoir, c'est quoi les critères de sélection d'immeubles? Parce que là, tu sais, on se doit d'avoir une ligne de conduite par rapport à ça. Puis moi, je pense que ça va être le sujet qu'on va parler tout de suite après la pause. Puis vous voulez avoir cette information-là, restez avec nous. Mais surtout, suivez-nous sur les plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, name it. Restez avec nous.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, oui, il va acheter ton bloc.
Recevez votre marque à votre image.
Tu veux de l'extra cash dans ta vie?
Bingo!
Tous les dimanches, 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde!
Stay tuned right after this.
Chérie.
Hein?
Chérie.
Quoi?
Regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une patte de lièvre au-dessus du foyer de la maison,
hein?
Elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé, puis on n'aura même pas besoin d'agent.
OK.
Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres, on va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça?
C'est extrêmement merveilleux, chérie. Me semble que je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non?
De retour à la bulle immobilière.
Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. On parle toujours d'immobilier de long en large. On couvre tous les sujets. On peut, à un moment donné, chérir, parler des ressources humaines. Puis on ramène ça au niveau de l'immobilier, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on n'a jamais abordé, des entreprises cotées à la bourse en fonds d'investissement immobilier. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est tellement intéressant que j'ai l'impression de suivre une émission quand on reçoit Alex Blouin ou ce que je chaîne du nez parce qu'il y a tellement de contenu vraiment intéressant que je comprends pas, que je fais comme « Oh mon Dieu, il faut avoir encore plus de temps pour en jaser ». Toi, Sylvie, c'est quoi les premiers Q-lines que tu vois, là, que tu trouves qui étaient vraiment intéressants, puis vers où qu'on s'en va?
Mais en fait, moi, c'est la possibilité de voir que ça peut être possible, que ça peut être accessible. Bon, on en parlait hors d'onde, c'est quand même hyper compliqué. Maître Léonard, qui est avec nous aujourd'hui de BTB, tu sais, vous le disiez aussi en hors d'onde que c'est un processus quand même compliqué, mais on voit qu'une fois bien entouré, c'est possible. Fait que ça, moi, c'est ça déjà que j'adore. Puis un autre aspect que j'aime, c'est que là, on va parler un peu des critères de sélection des immeubles. Ça, je trouve, ça s'applique vraiment à nos auditeurs aussi qui nous écoutent, qui ont acheté 2-3 immeubles, qui ont l'intention d'en acheter. Mais là, on est dans un autre volet d'envergure parce qu'on le disait, on était rendu avant la pause à « j'ai 35 millions à dépenser, c'est quoi mes critères de sélection ?» continuons là-dessus, Maître Léonard. Donc, c'était quoi un peu le mindset à ce moment-là, puis comment vous procédez pour acheter des immeubles?
Je pense que ce qui est important de dire à la base, c'est que nous, on voulait avoir un portefeuille diversifié d'immeubles. Puis la raison, c'était qu'on, évidemment bureau, commerce de détail, industriel. Puis la raison qu'on voulait avoir un portefeuille diversifié, c'est qu'on sait qu'il y a des soubresauts dans le marché. Mm-hmm. Alors, quand le commerce de détail va pas bien, le bureau va bien, ou bien non, l'industriel va bien, et on l'a vécu pendant la pandémie, et je pense que tout le monde a un peu tanné de parler de la pandémie, mais on l'a vécu, puis on l'a très bien vécu. Pourquoi? Parce que nos bureaux, les gens, on détient des bureaux qui sont plutôt en banlieue, et donc, les gens avaient accès à leur bureau, pouvaient y aller s'ils voulaient, et donc, on recevait le paiement de loyer. Dans le commerce de détail, bien, c'était fermé. Alors, c'était difficile de collecter le loyer, mais dans l'industriel, les loyers étaient perçus. Alors, mm-hmm. quand on regarde l'ampleur de la chose, bien, ça faisait en sorte que, pendant la pandémie, on a été capable de percevoir plus que 99 % de nos loyers dans le cadre avec l'aide financière du gouvernement, etc., mm-hmm. qui est l'aide aux locataires, là, c'était pas l'aide aux propriétaires. Alors donc, pour nous, la base, c'était de diversifier le portefeuille pour justement s'assurer qu'on ait l'argent pour payer la distribution au porteur de part. Parce que si tu n'as pas d'argent pour payer ta distribution au porteur de part, bien, les porteurs de part ne sont pas contents, vont vendre leurs unités de BTB, mm-hmm. et donc le prix de l'unité se met à baisser. Mm-hmm. Alors donc, nous, ce qui était la position la plus importante dans tout ça, c'était le paiement de la distribution, puis comment on peut assurer le paiement de la distribution. Donc, c'était d'avoir un portefeuille diversifié. Et aujourd'hui, on a toujours un portefeuille diversifié. On a toujours des propriétés de bureaux, on a des propriétés de commerce de détail, puis on a des propriétés industrielles.
Dans différents secteurs aussi, qui peut faire en sorte qu'un secteur, par exemple, de l'Ouest canadien, peut être en meilleure posture qu'au Québec à certains moments, et inversement, qui fait en sorte que il y a toujours un créneau, un segment de vos marchés qui va toujours bien aller puis qui va compenser majoritairement pour l'ensemble du portefeuille.
Exactement. Puis c'est pour ça que la diversification géographique du portefeuille est mm-hmm. aussi importante. Alors, si on, comme tu as dit tantôt, tu as tout mettre nos œufs dans le même panier, bien là, ça devient un petit peu plus contraignant ou peut-être...
au niveau de la croissance.
Pas nécessairement de la croissance, parce qu'il y a encore plusieurs propriétés qu'on peut acheter dans nos marchés. Mais je pense que c'est une question de diversification puis de s'assurer justement que notre détenteur de part soit payé. Alors, puis pour nous, c'est une pierre angulaire de tout ça. Oui. C'est parce qu'on ne veut pas manquer nos paiements. Alors donc, d'avoir un portefeuille diversifié, c'était la pierre angulaire. Alors, après ça, on commence comment? Bien, on avait notre fameux 35 millions qu'on a levé. Bien, nous, on a une politique d'investissement à l'époque où on finançait nos acquisitions jusqu'à 70 % hypothécaire, 30 % équité. Aujourd'hui, on finance nos acquisitions et nos renouvellements d'hypothécaires, etc., à un maximum de 60 % Donc, on est beaucoup plus... On fait attention, par exemple, à notre dette, où on veut réduire notre dette à moyen terme, dans le sens où aujourd'hui, notre dette hypothécaire est 56 % Donc, si on prend l'ampleur de nos actifs, il y a 56 % de nos actifs qui sont grevés d'une hypothèque, ou le montant ou la valeur est grevée d'une hypothèque. Alors, pour nous, c'est important, puis on veut continuer à réduire cette dette-là. Alors, quand on fait des investissements, bien, initialement, on était petit, donc on achetait des petits immeubles. Et par la suite, on s'est mis à grandir. Puis au niveau de la gestion quotidienne d'un petit immeuble, par exemple, un immeuble, on pouvait acheter un petit immeuble de bureau de 12 000 pieds carrés. Mais un immeuble de bureau de 12 000 pieds carrés, quand maintenant tu en achètes un de 50 000 pieds carrés, ça prend autant de temps à gérer 12 000 pieds carrés que de gérer 50 000 pieds carrés. Alors, à un moment donné, quand tu es petit, tu achètes petit. Quand tu es plus gros, tu achètes plus gros. Puis le passage obligatoire de tout ça, c'est le fait que tu dois te mettre à disposer de tes plus petits immeubles pour redéployer ton capital dans des plus grands immeubles. Parce que le problème, c'est que nos gestionnaires, quand ils sont pris dans des immeubles de, mettons, 50 000, 100 000 pieds carrés, à La Bourneuf, 200 000 pieds carrés, c'est plus difficile pour eux autres de consacrer du temps à 12 000 pieds carrés parce que l'immeuble de 200 000 pieds carrés, il demande trop de temps, puis trop d'énergie, puis trop d'efforts. Alors donc, on a commencé également à faire du repositionnement du portefeuille et on a disposé, à compter de 2018, on a disposé des propriétés qui étaient localisées dans des petits marchés pour se concentrer dans les grands marchés. Mm-hmm. Alors, tu sais, au niveau de la progression des critères d'investissement, pour répondre à ta question, la progression, c'est que faut quelque part là-dedans, on y va un peu avec nos moyens aussi, dans le sens où, je répète, t'es petit, ben t'achètes plus petit parce que tu te dis, j'ai pas le personnel requis pour gérer un immeuble de 200 000 pieds carrés quand on est 15. Mais quand on est rendu 80, ben là, on est capable d'en prendre plus.
Puis au niveau des achats, est-ce que vous êtes genre, parce que des fois, on entend ça, tu sais, j'achète des choses que je vois une opportunité de retaper, de valoriser. Est-ce que dans vos achats, vous achetez plus des immeubles qui sont déjà très, tu sais, très déjà classe A parfait ou vous allez tout le temps vers une optique d'optimisation?
On cherche toujours des classes A parfaits.
OK. Oui.
Mais c'est une question de gestion du risque aussi. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, la gestion du risque d'un immeuble qui est en très bon état va faire en sorte que vous allez pouvoir maintenir l'état en excellent état beaucoup plus longtemps que de partir avec un immeuble où il y a déjà une certaine usure, un certain mauvais entretien, puis de redresser l'immeuble pour le remettre sur un entretien va des fois coûter plus cher que de maintenir un excellent triple A sur un immeuble puis de le conserver plus longtemps. Ça, c'est mon opinion à moi.
Mais c'est une très belle, bonne constatation parce que c'est exactement ça. En plus, je reviens à mon critère de base, qui est de payer la distribution au porteur de part. Si on prend l'argent pour le redéployer l'argent pour changer des fenêtres, changer des toitures, refaire les locaux au complet des locataires, ben c'est moins d'argent qu'on a pour faire de la distribution. Cependant, on se garde certains immeubles où on se dit on peut faire du développement. Alors ça, c'est le nouveau volet de BTB, parce que quand, encore une fois, on était plus petit, tu peux pas mettre tes sous à risque quand tu es plus petit. Mais là, on a plus grand cash flow, on peut dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, on regarde certains sites que nous où nous sommes propriétaires, où on va faire du développement, où on va vendre des droits aériens. Puis là, ça devient une complète autre dimension dans nos... Alors, je vous donne un exemple. À Montréal, sur l'île de Montréal, on a un centre d'achat qui est ouvert, donc c'est pas un centre d'achat fermé, et qui, moi, j'appelle ça c'est un océan d'asphalte. Alors, c'est quelques petits immeubles avec un plus grand, mais le restant, c'est juste de l'asphalte. Alors, tu regardes ça, puis tu te dis... eu égard spécialement avec le développement au niveau du résidentiel puis le manque d'unités résidentielles dans les marchés, que ce soit à Québec, à Montréal, c'est la même chose. Là, on s'est dit, ben il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Alors, effectivement, on a conclu une entente conditionnelle avec un développeur résidentiel pour vendre les droits de développer du résidentiel sur notre terrain. Puis à ça, nous, on n'encourt pas de risques. C'est le développeur résidentiel qui prend les risques. Et on va être payé un paiement par porte que le développeur va construire. On parle de 1 000 portes sur notre terrain. Alors, donc, 1 000 portes multipliées par un certain montant d'argent. Et l'entente fait en sorte qu'évidemment, on veut conserver nos locataires qui sont dans le commercial. On veut les relocaliser dans les immeubles, au rez-de-chaussée des immeubles qui seront construits. Alors, ça va être un développement par phase. Mais ça, on parle, c'est un immeuble là, qui a été évalué par Altus. Donc, 70 % de nos propriétés sont évaluées à l'externe. Ce n'est pas nous qui faisons notre propre évaluation des immeubles. Alors, il est évalué par Altus à environ 30 millions de dollars. Ça, ça compte pas la valeur des droits de développement résidentiel qui sont là, qui pourraient s'accumuler à un autre 30 millions. Alors ça, là, c'est de l'argent trouvé. C'est comme le marché à terre, puis trouver 5 $ là.
Tout vous, c'est vraiment... un 60 millions.
Ça revient à ça. Ouais.
Alors, 30 plus 30.
Mais c'est exactement ça. Alors, quand on parle de faire du développement, quand on parle de retaper,
ouais.
Ben là, moi, nous, on s'implique au niveau de nos centres commerciaux, puis là, on se dit, ben, il y a du potentiel de développement. Alors donc, plutôt que d'acheter quelque chose que tu vas retaper, quelque chose que tu vas jeter à terre, que tu vas rebâtir, que tu vas trouver des locataires, ben, je pense que la façon dont on voit nos choses, c'est d'investir dans ce qu'on a déjà pour être capable de...
De devenir le promoteur du projet.
Puis d'aller chercher beaucoup plus de valeur que la valeur au livre actuelle.
Exact.
Dans le projet en question, notre valeur au livre de la portion développement résidentiel n'a pas été évaluée. Ça, donc, on sait qu'il y a une valeur, mais elle ne fait pas partie de la valeur qui est déjà...
Ça va être que du bonus.
C'est de
l'argent. Et en même temps, pour les détenteurs de parts, c'est ça, vous minimisez leur risque à 100 %. Fait que, moi, à titre d'actionnaire, je suis content que la gestion de BTB prend ces décisions-là parce que je veux m'assurer que mon fonds d'investissement que moi, je vais avoir mis dans vos mains soit investi de bonne façon. Puis, tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont investir leur portefeuille quasi en entier dedans. Fait que si le fonds fonctionne bien, bingo, ils vont être satisfaits. Mais si jamais, pour X raison, qu'il y a des mauvaises décisions, ben là, tu sais, leur patrimoine peut être atteint de ça aussi. Puis ça, c'est quand même vraiment intéressant. Puis, est-ce que vous avez un comité interne d'acquisition? Est-ce que vous pouvez vous-même, tu sais, sans nécessairement envoyer des avis au conseil d'administration, etc., si vous suivez la lignée, justement, de la fiducie ou la ligne directrice de la fiducie, vous avez vos comités d'acquisition, d'analyse, etc., puis vous pouvez être très rapide dans les projets d'acquisition?
On peut... C'est pas si facile que ça.
Ben, c'est ça que je trouvais intéressant.
Évidemment, à chaque achat, chaque disposition qu'on fait, on doit recevoir l'approbation du conseil. Alors, effectivement... Il y a un comité de placement, un comité d'investissement, vous pouvez les appeler d'une façon ou de l'autre, qui est en place avec des membres du conseil. Alors, la façon dont on fonctionne, c'est que on présente nos projets d'acquisition de disposition au comité de placement. Si le comité de placement est d'accord, le comité de placement fait la présentation au conseil d'administration pour recevoir l'assentiment du conseil d'administration pour procéder avec l'investissement ou le désinvestissement. Alors, chez nous... Comme tel, je peux vous dire, ça va très vite. Parce que le conseil est à l'écoute, puis le conseil, il se prend pas pour un autre, dans le sens où, non, je veux juste avoir des rencontres aux 3 mois. Non. Chez nous, c'est ça qui est le fun, c'est le fait qu'on est capable de les appeler, de céduler une rencontre rapidement, présenter notre documentation, avoir leur assentiment rapidement. Alors, on n'est pas dans une espèce de...
Une structure administrative qui vient ralentir.
Qui est lourde, ouais. Lourde, comme on peut voir. Là, évidemment, on n'est pas belle, mais dans la façon dont toutes les choses ont été organisées initialement, c'est qu'il y avait une rapidité d'exécution. Puis pour moi, c'est important parce que, tu sais, tu parlais tantôt d'être entrepreneur. Ben moi, si tu me mets dans une espèce de carcan opérationnel, là, j'ai de la misère.
Il faut conserver l'agilité, puis surtout dans l'investissement immobilier, parce qu'une opportunité peut se présenter très rapidement puis peut disparaître très rapidement aussi. Fait que l'agilité doit être vraiment intéressante. On arrive sur la fin de notre dernier segment. Pour vrai, j'en aurais pris une heure de plus pour mieux comprendre puis de discuter de vos projets. On a 800... millions à investir dans les prochaines années pour arriver à notre 2 milliards. Ouais. C'est quoi la vision de BTB pour en arriver à...
C'est finalement de continuer de construire sur nos bons coups. Et construire sur nos bons coups, ça veut dire, je pense qu'on est dans la bonne direction. On mise plus sur l'industriel. Puis on veut que notre segment industriel gagne en valeur, dans le sens où On est investi à l'heure actuelle 30 % en industriel, puis on aimerait se rendre à 60 % dans le segment industriel.
Dans le portefeuille.
Alors, puis comment ça se produit, ça? Bien, évidemment, c'est de se concentrer de plus en plus sur des investissements industriels et faire du redéveloppement, comme je mentionnais, au niveau de nos propriétés commerciales. Mm-hmm. Et le redéveloppement peut éventuellement se terminer en disposition aussi. Alors, comment on fait cette mesure? Bien, c'est vraiment de s'en aller vers le plus d'investissements industriels, puis continuer notre diversification géographique parce que, mm-hmm. Justement, comme je l'expliquais tantôt, là, c'est justement pour s'assurer de notre pérennité qui est très, très, très importante à mes yeux puis aux yeux des investisseurs aussi.
C'était vraiment intéressant, Maître Léonard. La meilleure façon de vous joindre ou vous suivre dans les différents projets, c'est comment?
On a un site web, btbreit.com. REIT, c'est l'acronyme de Fonds de placement immobilier. Alors, FPI BTB ou btbreit.com. Alors, notre site web qui vient juste d'être justement tout rebrandé, excusez l'expression, refait, mis à neuf.
Nouvelle image de marque.
Nouvelle image de marque. On a tout fait ça justement pour être de plus en très, très, très accessible.
Parfait.
Accessible, puis que les gens aient l'information qu'ils recherchent. Alors, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ça.
Wow. Écoutez, M. Léonard, c'est un réel plaisir de vous avoir reçu. Vous êtes déjà un invité chouchou. Vous voulez revenir parler lorsque vous allez atteindre le 2 millions. C'est plus rapide, il n'y a vraiment pas de souci.
2 milliards.
On est prêt, 2 milliards, excusez-moi. Mais on est prêt, quand vous êtes prêt à revenir ici, je vous remercie de votre présence. Ça a été un réel plaisir. Ça a été une discussion très intéressante. J'ai plein de questions que je vais vous poser hors d'onde. Un gros merci. On est samedi, midi. Manquez pas Zone Parallèle tout de suite après nous. Passez une belle journée tout le monde. Bye bye.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Lui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes.